Bonjour. Grandir sans se trahir, un défi passionnant auquel nous sommes à peu près tous confrontés un jour ou l'autre. Prenez par exemple les vigneronnes et les vignerons. C'est déjà un travail colossal de mener tout seul 2 ou 3 hectares de vignes, surtout si l'on privilégie l'action manuelle à la chimie. Mais c'est une surface insuffisante pour faire vivre une famille, et suivant les régions, la taille critique est plutôt à 10, 15 ou 20 hectares. Alors quelles sont les options ? Grandir, cela veut dire embaucher du personnel, une responsabilité importante et aussi un risque. Mécaniser permet de réduire les coûts, recourir à la chimie justement permet de réduire les risques, au risque de se dénaturer. On peut aussi augmenter le prix de la bouteille, encore faut-il que le marché le permette, et c'est aussi au risque de perdre des consommateurs qui n'ont pas le budget pour suivre votre évolution. Prenez ce podcast. Né au départ de la volonté de 3 passionnés de regarder le monde à travers un verre de vin, autrement dit de s'offrir un prétexte pour rencontrer des gens passionnants et boire de belles bouteilles, pour nous aussi, il est important de grandir, pour toucher plus de monde d'abord et aussi pour pérenniser la petite entreprise, convertir les écoutes, de plus en plus nombreuses, en euros, non pas pour s'enrichir, loin de là, mais pour professionnaliser un peu notre travail, enregistrer en studio par exemple, travailler bien les réseaux sociaux et d'autres choses encore. Quelles sont donc nos options pour se professionnaliser tout en restant nous-mêmes ? La cuvée La Terre à Boire en est une, vous pouvez la commander sur notre site. Diffuser des publicités en début d'épisode ? Peut-être. Les annonceurs pour l'instant ne se bousculent pas sur le Winecast, mais cela viendra assurément. Il faudra alors être attentif et vigilant à garder une cohérence entre ce qui est dit dans l'émission et le message du sponsor. Organiser des enregistrements publics, c'est une autre piste. Nous sommes en train d'y travailler, à condition que ce fichu virus nous laisse un peu tranquille. D'autres voies sont possibles, comme la présente émission va tenter de le démontrer, parce que le plus important, vous l'avez compris, n'est pas de grandir, mais de rester fidèle à ses valeurs. Ce 84e épisode s'intitule « Rasto, corps et âme ». Bienvenue dans La Terre à Boire. Nous voilà donc en studio. Au passage, merci Morgane du studio Module qui nous accueille ici pour la première fois. Nous voilà en studio pour explorer une appellation qui nous tient particulièrement à cœur. On est dans la vallée du Rhône méridionale, dans le Vaucluse, tout près du célèbre Châteauneuf-du-Pape. Nous sommes à Rasto. Bonjour Patrice Defay.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va très bien, très bien. On passe à travers les mailles du filet Covid pour sortir, se faufiler. Enfin bon, on essaie de s'en sortir.
Déguster quelques vins. Bonjour Laurent Delceau.
Bonjour.
Ça va aussi ?
Ça va très bien.
Ravi qu'on parle de Rasto, toi, depuis le temps que tu nous en causes.
Évidemment, hein, une région qui me tient à cœur, vous le savez. Tout près de l'université du vin de Suze-la-Rousse.
À laquelle tu as fait tes gammes.
Où je suis allé traîner quelques temps, il y a quelques années maintenant.
Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord préciser quelque chose qui fait écho à ce que j'ai dit dans l'édito, c'est que cet épisode est réalisé en partenariat avec l'appellation, l'AOC de Rasto. Et comme nous vous devons la transparence, c'est la moindre des choses qu'on vous explique un peu la démarche, ce que ça signifie un partenariat. D'abord, ça signifie que cet épisode est financé par l'AOC Rasto. Voilà, ils ont mis un petit peu de leur poche pour payer, par exemple, le studio dans lequel nous enregistrons, nous aider à grandir, puisque c'était le thème de mon édito. Mais on vous doit aussi de dire que la ligne éditoriale du podcast, pour autant, n'en est pas changée. On parle des vins qu'on veut. On ne va pas dire, par exemple, d'un vin qu'il est merveilleux si on ne le pense pas, rassurez-vous. L'autre atout d'avoir un partenaire, c'est que qui dit partenaire dit collaboration. Et la collaboration, en l'occurrence, elle a pris la forme d'une quinzaine de cuvées que l'AOC Rasto nous a gentiment envoyées pour qu'on... pour qu'on goûte, pour qu'on s'imprègne un peu de ce terroir qu'on connaissait, certes, mais là, d'avoir 15 vins différents à goûter, c'était une vraie belle expérience. L'idée, c'était d'en sélectionner quelques-uns et puis de choisir ceux dont on va parler aujourd'hui et, accessoirement, de choisir aussi l'invité qui va venir juste après. Alors, comment on a procédé ? On s'est réunis au Wine Therapy pour ne surprendre personne, chez Laurent Delceau, ici présent. Et puis, on a aligné les bouteilles sur le comptoir et quelques clients qui étaient assez intrigués, intéressés de notre démarche. Et puis, on a goûté comme ça les vins. On prenait des notes. Patrice notait tout ce qu'on pouvait raconter. Et on a fait comme ça trois rounds, je crois, trois vagues, des vins, retenant les vins qui nous parlaient le plus, qui nous émouvaient le plus. Alors, il y a forcément une part d'impondérable, hein. Certains vins sont peut-être pas très bons à boire ce jour-là, ou peut-être notre humeur fait qu'on va plus vers tel ou tel vin. Le fait est qu'on s'est plié à cet exercice. On a commencé par en éliminer quelques-uns ou en écarter quelques-uns. Ensuite, on a fait un deuxième tour. On en a gardé 5. Et voilà, en essayant, comme à notre habitude, de trouver des vins qui sont, évidemment, qui nous plaisent et qui sont, si possible, qui racontent des histoires différentes d'un même terroir. Vous savez, c'est comme ça qu'on procède quand on veut mettre un petit peu un coup de projecteur sur une appellation. Et ainsi, on a sélectionné donc 5 vins, parmi lesquels on a échangé avec l'AOC et on a trouvé qu'il était intéressant d'inviter telle personne, puisque, comme à notre habitude, encore une fois, nous avons une invitée. Bonjour Madeleine Ferrand.
Bonsoir, vous allez bien ?
Ça va très bien, merci. On est ravis de parler de Rasto avec toi. Alors, Madeleine, toi, tu as pris les rênes du domaine des Escaravailles.
Enfin, pris les rênes, pas encore, mais ça commence.
C'est en cours. On y reviendra. Voilà. Tu nous raconteras un petit peu l'histoire de ce domaine fondé par ton arrière-grand-père. Le grand-père est toujours là. Le père est en train de te passer la main. Donc, c'est une de ces histoires de transmission qu'on affectionne également. On va y revenir pour parler des Escaravailles et évidemment pour goûter ton vin. Au préalable et auparavant, Patrice, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce terroir de Rasto, si on veut faire une présentation comme ça un petit peu générique?
Alors, Rasto, c'est une AOC, une AOP, c'est aussi un village. Donc, l'AOP Rasto date de 1944 pour les VDN. Donc, les VDN ont été...
Les vins doux naturels.
Exactement, les vins doux naturels ont été AOP et AOCisés, si on peut dire ça comme ça, il y a très longtemps. Et l'AOP pour les vins tranquilles, donc les vins rouges, ne date que de 2010. Donc, ça fait... 11 ans que le Rasto est en AOP pour les vins tranquilles.
Ça veut dire que Rasto est un cru, qu'il suffit d'écrire Rasto sur la bouteille, et pas Côte-du-Rhône Rasto ou Côte-du-Rhône Village Rasto.
Exactement. Etc. Donc pour les grandes lignes, donc Rasto, alors c'est l'AOP pour les vins tranquilles, n'est que pour les vins rouges. Et pour avoir l'appellation Rasto, il faut être sur la commune. La commune de Rasto.
Il participe, j'imagine qu'il court aussi dans les vignes. Quel terroir alors on a à faire?
Rasto, donc juste pour la commune de Rasto, c'est 1900 hectares et il y a 1170 hectares de vignes. Ça veut dire que les deux tiers de la commune de Rasto est couverte de vignes. C'est un des crus les plus septentrionales des Côtes-du-Rhône, puisqu'on est juste en dessous de Grignan-les-Adhémar, à l'ouest de Vaison-la-Romaine. Et ce qui est intéressant, c'est que cette zone d'appellation en fait longe l'Ouvèze. Du nord au sud, il faut juste essayer de se visualiser, de s'imaginer. Au nord, on a la colline de Ventabrenne et qui descend par petites, soit en terrasse, soit en croupe de collines vers l'Ouvèze. Ce qui donne pas mal de choses intéressantes. D'abord, plutôt des vignes qui sont orientées au sud et au sud-est, parce qu'on a un facteur majeur dans cette zone. D'abord, il fait assez chaud, mais on a un vent qui s'appelle le Mistral, qui vient du nord, qui peut être à la fois très violent pour la vigne, donc il faut en être un peu protégé, mais aussi qui est très bénéfique pour la vigne, parce qu'il va rafraîchir cette zone assez chaude et permettre d'avoir une maturation plus lente des raisins et pour avoir un optimum de ce qu'on appelle la maturité phénolique, c'est-à-dire l'équilibre entre acidité, alcool, etc. etc.
Donc, parler du fait qu'il protège aussi les maladies.
Et le vent, oui, bien sûr, le Mistral protège aussi des maladies. Localement, d'abord, c'est plutôt le terroir du Grenache, puisque dans l'appellation Rasto Rouge Vin Tranquille, il faut au moins 50% de Grenache, en général accompagné de Syrah et de Mourvèdre dans les assemblages. Et puis le Grenache aussi pour les VDN, donc les vins doux naturels, où on est à minima à 90% de Grenache. Là, pour contre, le Grenache peut être rouge, blanc ou gris. Et il est assemblé ensuite pour tout cela. Sur la partie plus terroir et les sols, alors plaidez-moi un petit peu peut-être violent, mais c'est ce qu'on appelle un diluvion alpin. Donc en fait, c'est en gros des cailloux, des rochers, des limons qui ont été amenés jusque-là. Donc la montagne de Ventabrenne, qui est juste au nord de Rasto, est constituée de ces éléments-là. Donc on y retrouve du grès, des sables, des argiles et des fameuses marnes bleues. Alors la marne, en deux mots, la marne en fait c'est juste un mélange de calcaire et d'argile, mais en fonction de la proportion, à peu près à 50-50, mais on peut aller à 65-35 dans les deux sens. Et donc ces terroirs-là permettent d'abord d'avoir une certaine parce qu'un des problèmes de la chaleur dans ces zones-là, c'est le stress hydrique. Donc, ces terroirs argile ou marne permettent de garder un petit peu d'eau dans les
sols.
Dans les sols d'optimiser la vigne. Après, sur l'encépagement, on est plutôt à 4000 pieds par hectare, ce qui est plutôt assez faible. Et sauf faire de ma part, mais Madeleine nous corrigera, on est à la fois sur une conduite en gobelet, c'est-à-dire, vous savez, ce qu'on retrouve dans le Beaujolais, là, qui a une forme de main. Le gobelet permet en général de protéger les raisins du soleil, puisque la surface foliaire est au-dessus des raisins et donc protège du soleil qui tape directement. Et puis, quelques conduites aussi en palissage, mais toujours sur ces terrasses et sur ces coteaux. Légèrement pentu. Au maximum, ça monte à 350 mètres et puis on descend un peu plus bas quand on se rapproche du Louvèze. Et Louvèze, une des caractéristiques, c'est qu'on va se rapprocher sur quelques terroirs, pas sur l'intégralité de Rasto, mais de quelques critères de Châteauneuf-du-Pape, puisque Louvèze, on sait qu'il peut déborder, hein, les catastrophes de Vaison-la-Romaine, nous en avons rappelé cela il y a quelques années, mais du coup ça charrie et ça amène pas mal de galets roulés. Et donc on va trouver notamment sur la partie est-sud-est de Rasto, pas mal de galets roulés sur les premières terrasses qui affleurent près de Louvèze.
Donc du soleil, du vent, un peu de hauteur, du grenache, la Syrah du Mourvèdre, Laurent, des vieilles vignes, une appellation jeune pour ce qui est des rouges et qui commence à déjà être assez ancienne pour les vins doux naturels. Laurent, je me tourne vers toi. Toi, caviste, tenancier de bar à vin,
tenancier,
bistrotier, comment est perçu Rasto chez les clients? Est-ce que c'est une demande? Est-ce que c'est une appellation qui est connue? Des amateurs de vin qui viennent chez toi? Il y a des Français, il y a beaucoup d'internationaux aussi. Comment tu placerais comme ça Rasto dans la carte?
Eh bien, bon, il faut être quand même très prudent sur le sujet, parce que la plupart des Français, mais déjà à la base, connaissent très très mal les appellations. Hein. Il faut savoir que quand les gens connaissent les Côtes du Rhône, ils sont déjà allés au bout de leur connaissance la plupart du temps. Alors, je ne parle pas des étrangers qui effectivement connaissent Châteauneuf-du-Pape. C'est une appellation qui parle, qui plaît à beaucoup d'Américains notamment. Mais quand on rentre dans le détail des crus du Rhône, il y a une méconnaissance énorme. Donc c'est vraiment notre boulot de faire découvrir des appellations qui sont moins connues que effectivement Châteauneuf-du-Pape, qui a la notoriété qu'on connaît.
Et donc toi, quand tu fais découvrir, puisque je sais que c'est un peu ton jeu de faire découvrir les vins, quelle est la réception en général quand tu sers un Rasto comme ça à l'aveugle?
Bah, à partir du moment où on répond à l'attente du client, qui est d'un vin quand même avec pas mal de puissance, il y a quand même des marqueurs forts avec la dominante de Grenache. Finalement, le client, il se laisse séduire. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est assez simple. Donc ça, sur les vins secs, voilà, à l'aveugle, on fait goûter parmi les rouges. Et bon, et Rasto tire très bien son épingle du jeu, comme la plupart des crus du Rhône. Hein. Il faut voir les choses comme ça. Après, ce qui est intéressant, la particularité quand même, même si c'est très très minoritaire dans la production et dans la demande, c'est de faire découvrir les vins doux naturels. Parce qu'il y a vraiment un patrimoine de vins doux naturels en France qui est très méconnu. Et le Rasto passe très très bien évidemment sur les desserts au chocolat. Moi j'aime bien préparer des desserts au chocolat. Donc le mariage est superbe. Le mariage est superbe.
Alors on viendra sur les vins doux à la fin de l'émission, parce qu'on va commencer par déguster deux rouges. Madeleine, maintenant que tu as entendu cette courte présentation, est-ce que j'ai envie de te demander, est-ce que tu reconnais ton terroir entre ce qu'a dit Patrice notamment et ensuite ce qu'a dit Laurent?
Ah oui, c'était vraiment très bien présenté. Pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que c'est vraiment important de retenir cette mosaïque de terroir et l'importance de nos argiles, peu importe leur couleur, mais vraiment c'est notre réserve en eau, et surtout à cette époque, c'est important de lutter contre ce manque d'eau. Et voilà, nous par exemple, on se situe sur les collines, donc sur la partie un peu plus haute.
Donc nous, c'est le domaine des Escaravailles. Alors d'abord, je ne peux pas y résister. Qu'est-ce que c'est que ce nom? C'est un nom de ça vient de l'occitan, non? C'est ça?
Oui, voilà, c'est ça. Escaravaille, ça veut dire scarabée en occitan. Et ça vient du fait que la propriété appartenait aux pénitents noirs, donc des religieux, et ça remonte, hein, ça remonte au XVIIe siècle.
Pour surnommer les scarabées. Oui.
Voilà, c'est un les surnommés les scarabées parce qu'ils travaillaient dans les champs vêtus de noir et c'était leur nom. Du coup, le lieu dit s'appelle Escaravail.
Donc toi, tu as repris, donc tu es en train de reprendre avec ton père l'exploitation. C'est une quarantaine d'hectares à Rasto. Dis-nous un peu plus, fais-nous la présentation de ce domaine. 40 hectares, c'est déjà pas mal, hein ?
Oui, voilà, c'est beaucoup. Tout n'est pas planté à l'heure actuelle. On a seulement une trentaine d'hectares plantés. Le reste sont des bois ou des terres en friche en attendant de replanter. Mais sinon, la particularité vraiment du domaine, c'est que tout est un seul tenant autour du domaine, du coup, sur les hauteurs. Et on a vraiment une majorité de marnes et de caillouties pour nos sols. Et c'est vraiment important et c'est ce qui fait l'essence même de nos vins, parce qu'on est sur les hauteurs, donc on a la fraîcheur, mais on a aussi ces argiles qui apportent de la profondeur dans les vins.
Ton arrière-grand-père s'est installé là dans les années 50, c'est ça ?
Oui, voilà, c'est ça. À l'époque, il n'y avait pas de vigne, pas d'eau, pas d'électricité. Il s'est lancé le pari. Il s'est dit, il a eu un coup de cœur, hein, vraiment. Il a voulu tout commencer.
C'était bien vu de se mettre sur les hauteurs à l'époque. Il n'anticipait probablement pas le réchauffement climatique, mais aujourd'hui, du coup, vous bénéficiez d'un terroir qui est privilégié.
Oui, c'est ça. À l'époque, je pense même qu'il avait un petit peu des soucis de maturité, mais avec le temps. C'est parfait pour nous, quoi.
Alors, quelle est la gamme de vins qui est proposée par le domaine des Escaravailles ?
Alors, nous avons une gamme très étendue parce qu'en plus d'être sur Rasto, on est sur d'autres appellations. On va se concentrer sur Rasto. On a 5 Rasto rouges, du plus léger entre guillemets au plus élaboré, et on a aussi 5 vins doux naturels. On adore faire des vins doux.
Oui, tu m'as dit, je crois. Non,
oui,
tu m'as dit, je crois que justement l'arrière-grand-père. Comment il s'appelait cet arrière-grand-père ?
Jean-Louis.
Papy Jeannot. Il était particulièrement amateur de ces vins doux quand il est arrivé. Peut-être que à l'époque, donc l'AOC ne portait que sur les vins doux et que c'était la renommée de Rasto était ces vins doux, même si on produisait déjà du rouge. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. Il a planté ses vignes à partir des années 50. Le cru était là depuis 44. Et il a vraiment eu à cœur de faire des bouteilles de vin doux alors qu'il ne faisait pas encore de rouge sec.
Alors, en parlant de rouge sec, on a dans nos verres un vin du domaine des Escaravailles, évidemment, qui s'appelle, la cuvée s'appelle Argila ad Argilam. C'est du latin. Il semble que ça parle d'argile. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette cuvée qui porte sur l'étiquette une belle amphore?
On s'est sacrément creusé la tête pour le nom de la cuvée. Ça veut vraiment dire de l'argile à l'argile en latin. Parce que nos terres sont argileuses, pardon, et la cuvée est élevée en amphore, en terre cuite, en argile. Et donc l'histoire derrière ce vin, ça vient d'un voyage qu'on a fait en priorat avec mes parents et d'autres vignerons de Rasto d'ailleurs. Et après avoir dégusté dans plusieurs caves, on a goûté ce vin. C'est au domaine Minortiz, un tout petit domaine pas très connu. La même cuvée élevée en bois, en béton et en amphore. Et vraiment, la cuvée en amphore est ressortie avec une fraîcheur, une minéralité qui était très intéressante. Et on s'est dit, où est-ce que vous avez eu vos amphores ? On veut les mêmes. Et on a fait venir un semis d'amphore avec les deux autres vignerons, le Grand Nicolet et le Côté des Travers. Et voilà, maintenant, on vinifie là-dedans.
Et sachant que oui, il y a une vraie analogie entre les vins du Priorat et puis les vins de Rasto, parce que d'abord c'est le Grenache qui domine, comme au Priorat.
On est en Catalogne.
On est en Catalogne, on est dans l'arrière-pays de Barcelone. C'est des vins hyper qualitatifs, très difficiles à faire. Un petit peu, on peut imaginer un petit des paysages qui peuvent ressembler à ce qu'on va trouver en Côte-Rôtie avec des terrasses et des sols assez abrupts. Alors là-bas, ils ont plutôt des ardoises que des argiles, mais c'est pareil, on vient, donc c'est un terroir chaud, c'est un terroir pentu, on a le grenache qui est aussi dominant sur les assemblages, et là où eux, ils vont venir assembler dans le priorat avec du carignan pour donner en fait de la structure. On pourra parler un peu plus en détail du cépage grenache noir après, parce qu'il a ses caractéristiques, et c'est celles qui font la valeur du vin, et c'est celles aussi qu'il faut domptée, je dirais. Et ben, c'est le Syrah et un peu le Mourvèdre qui a ce rôle-là.
La Syrah. Attention. Hein.
Et le Mourvèdre qui a un peu ce rôle-là à Rasto.
Ce vin, est-ce que l'expérience de l'argile, donc de l'argile à l'argile, c'est vraiment ce qui transforme le vin qu'on est en train de boire, le fait qu'il ait vieilli en amphore? Quel est le processus d'ensemble? Je crois que vous éraflez en totalité, il n'y a pas de grappe entière hein, dans le coin, on ne fait pas trop ça. Oui. Et quel est le sol, le terroir sur lequel il pousse? On a compris que c'est de l'argile, donc de la marne rouge ou bleue?
On est sur des argiles rouges avec des calcaires, et là on est donc sur des terres autour de 320 mètres d'altitude avec des expositions sud. Et vraiment, à la base, quand on a fait cette cuvée, on pensait pas la sortir telle quelle en 100% élevage amphore. Et vraiment, au fil des dégustations, on s'est dit, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse, quoi. On est sur 60% de grenache et 40% de syrah. La syrah apporte beaucoup d'épices, beaucoup de structures. D'habitude, ces cuvées-là, elles ont besoin de beaucoup plus de temps en élevage. Et pourtant, il y a une buvabilité, un fruit et une finesse qui nous plaît beaucoup, et ça vient vraiment de l'amphore.
Quand on a dégusté les 16 vins, ceux qu'on n'a pas sélectionnés en premier round, c'est les vins qui étaient déséquilibrés. Le challenge, je pense, de la région, mais après, la vigneronne, et Madeleine le dira beaucoup plus précisément parce qu'elle le vit au quotidien, c'est de maîtriser la chaleur, de maîtriser l'alcool, parce que le grenache est un cépage qui mature bien à Rasto, et donc du coup, il va avoir un taux d'alcool assez fort. Il est assez peu tannique ou moyennement tannique. Donc le risque, c'est de partir assez vite sur des déséquilibres vers des goûts très très confiturés, de pas avoir de d'ossature et de tension. Donc la syrah amène ça, mais l'élevage aussi est important, parce que si on rajoute un élevage bois, peut-être sur quelque chose qui est déjà un peu sec et fortement alcooleux, ça donne des déséquilibres de vin. Ce qu'on n'avait pas sélectionné avait ça. Et pourquoi on a sélectionné Argila Gilem? Parce que il y avait cette côté très fruit rouge, donc assez vif, assez léger en bouche de la grenache qui était maintenue. Et effectivement, la syrah amène beaucoup d'équilibre. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai perçu.
Laurent, ton avis sur ce vin?
Pardon, on était d'accord effectivement pour reconnaître la grande finesse, l'élégance de ce vin par rapport à un grand nombre d'échantillons qu'on a pu goûter. Effectivement, c'est assez bluffant de garder cette fraîcheur. Moi, c'est ce qui m'a plu dans cette cuvée.
Il y a à la fois la générosité qu'on attend, je pense, quand on est dans ces terroirs du Rhône Sud, et à Rasto en particulier, et en même temps un équilibre, une tension qui le rend, comme tu disais, extrêmement buvable, très équilibré, pas du tout lourd. Est-ce que dans l'approche, comme tu es la quatrième génération sur le domaine, l'approche a évolué entre les générations sur le profil des vins? Il y a une idée comme ça de ces vins du Sud qui étaient peut-être perçus comme un peu lourds et trop puissants, et on voit bien que, alors c'est un thème qu'on a souvent abordé ici, que globalement le goût et puis le travail du vigneron va vers des vins justement un peu comme celui-ci, qui est beaucoup plus tendu, équilibré, élégant. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu as vécu j'imagine, les échanges que vous pouvez avoir entre les générations sur le profil des vins que vous souhaitez faire?
Oui, c'est sûr que l'approche évolue toujours, ne serait-ce qu'en fonction des modes, des styles, des souhaits des consommateurs. La sucrosité du grenache, c'est très agréable, c'est très charmeur, mais il y a ce problème de l'alcool. Mon arrière-grand-père disait, il y a déjà plus de 40 ans de ça, un grenache en dessous de 14, c'est un grenache pas mûr, c'est pas bon. Et le problème, c'est qu'il faut équilibrer tout ça. Et je le vois avec mon papa, parce qu'il aime beaucoup la rondeur, ce fruit, mais c'est important d'avoir cet équilibre. Nous, c'est la chance d'être en altitude qui fait ça. Mais on le voit aussi du côté des consommateurs. Ils cherchent quelque chose d'un poil plus léger, plus accessible facilement, mais tout en gardant cette complexité et la profondeur qui caractérise les vins de Rasto.
Mais justement,
donc c'est assez complexe.
Pardon, Madine. La syrah, par rapport à ça, vous n'avez pas trop de problèmes à la maintenir? Enfin, quel est le delta entre les récoltes de
la maturité du grenache et la maturité de la syrah?
Parce que c'est quand même l'élément compliqué aujourd'hui dans le sud d'avoir des syrahs qui restent aussi élégantes, non?
Et oui, le problème surtout, c'est le dépérissement de la Syrah, parce qu'il commence à faire trop chaud ici. Mmh. Et alors que le grenache se plaît complètement, la Syrah est un peu plus fragile et il faudrait un terroir un peu plus au nord. Donc ça, c'est le problème majeur. C'est pourquoi on est en train de réfléchir avec le syndicat et l'ODG à adapter un petit peu le cahier des charges pour répondre au réchauffement climatique et aux problèmes d'avenir, quoi.
Et les axes de réflexion vont dans quelle direction ?
Ajouter un peu plus de proportion d'autres cépages, type carignan ou cinsault, dans les assemblages.
Mmh. Faire comme au priorat, quoi.
Voilà, c'est ça, exactement. Mmh. Pour tempérer un peu plus le grenache et avoir des vins un peu plus légers.
On est en train, nous, de déguster le millésime 2019, très équilibré, très élégant, et pourtant qui a du corps. Comment étaient les autres millésimes, 2020 et puis 2021, qui est en train de se forger? Est-ce que d'un millésime à l'autre, on change beaucoup le profil des vins? Si on reste sur cette cuvée pour l'instant. Mais...
Oui, pour cette cuvée ou même pour les autres. 19, 20, 21, il y a vraiment trois profils complètement différents. 19, c'est mon premier millésime. Je crois qu'on peut pas commencer mieux. Il y a l'équilibre, l'élégance, beaucoup de matière. 2020, on est pour nous particulièrement parce qu'on a fait un choix de vendange un peu plus précoce pour éviter notamment des grosses pluies qui étaient annoncées et pour gagner un peu plus en fraîcheur. Donc 2020, ce sera beaucoup plus sur la gourmandise, le fruit. En définitive, on boira les 2020 avant les 19 qui pourront se garder bien plus longtemps en cave. Et 2021, alors quel millésime?
Année compliquée.
Ouais, année compliquée, je pense que tout le monde en a entendu parler. Donc le gel, beaucoup de décalage, là ça a vraiment été l'année où il fallait connaître bien ses parcelles, plus complexe à aborder du coup, des écarts de maturité, aller au bon endroit au bon moment. Donc moi, je dirais que chez nous, c'est un millésime plus tardif. Dans le Rhône Sud, on aime bien dire que les millésimes pas tardifs, c'est des grenaches qui pinotent. Et c'est pas pour nous déplaire, ce sera des millésimes à garder un peu plus longtemps et à attendre qu'ils s'ouvrent. Et donc un peu plus de fraîcheur. Et ça va pas faire de mal sur les contre-étiquettes.
Un peu moins de volume quand même, j'imagine, en 2021.
Un peu moins de volume, ça c'est clair. Tout dépend des localisations. Mais les vignes bien exposées au gel, c'est terrible, quoi. Le 8 avril, ça a été quelque chose.
Qu'est-ce qu'on mange avec un argilame?
De l'argile?
Alors, on peut essayer. Je dirais plutôt des mets fins, parce que le vin n'est pas trop puissant, donc pas quelque chose qui prendrait le dessus. J'irais bien sur un agneau aux herbes de la garrigue pour rester dans les tons... vin du Sud, accord de gastronomie du Sud, ou un porc du Ventoux confit. On a un super élevage de porc en plein air au Ventoux et c'est quelque chose.
Ça doit être redoutable.
Voilà une spécialité à découvrir, le porc du Ventoux confit.
Ah oui.
On n'est pas loin du Ventoux, hein, on peut le dire. Hein. Vous le voyez de là où vous êtes?
Ah oui, on le voit très bien. C'est,
vous voyez
le géant de Provence.
Ouais, vous voyez d'abord les dentelles de Montmirail, normalement. En regardant vers le sud et après le Mont Ventoux.
Plein face, ouais. Exactement, et à gauche le Ventoux.
En tout cas, bravo pour ce vin parce qu'il est excellent. Nous, il nous a tout de suite séduit. On l'a tout de suite mis de côté comme les vins qu'on voulait conserver.
Donc pour répondre, oui, effectivement, le gros challenge de Rasto et comme pas mal d'appellations du sud, c'est de maîtriser l'alcool. Alors naturellement, comme disait Madeleine, le grenache en dessous de 14, c'est pas du grenache, donc il faut s'attendre quand même à des vins qui sont, on va dire, alcooleux. Mais justement, la grande qualité des vins, alors celui de Madeleine en particulier, mais sur les 16 qu'on a dégustés, pour moi, il y en avait 10 qui étaient super équilibrés, qui arrivaient à faire en sorte que on ne sente pas l'alcool, ce qui est un grand challenge. Alors avec plus ou moins de rondeur et plus ou moins de finesse, ceux qu'on a sélectionnés, ceux qui avaient de la finesse. Mais globalement, sur les 16-20, pour moi, il y en avait une bonne dizaine qui arrivaient à maîtriser cet alcool. C'est-à-dire, encore une fois, ils sont tous à 15 ou à 15,5.
Oui, c'est ça.
Mais on la sent pas.
Des fois, c'est trompeur parce que si on s'arrête juste au degré qui est sur la bouteille, en réalité, il y a des vins qui sont à 13 et qui paraissent beaucoup plus lourds que d'autres vins à 15 qui justement atteignent cet équilibre et qui sont pas du tout.
C'est toujours le fameux triangle entre l'acidité, les tanins et puis l'alcool qui va permettre d'avoir
d'effacer un petit peu le côté, bah, comment s'exprime l'alcool en bouche, c'est quand même le côté chaud et asséchant. Et là, du tout, on n'a pas du tout le côté chaud et asséchant.
Ouais. Bah, je suis toujours surpris quand les clients me questionnent sur l'alcool en me disant, tiens, je voudrais un vin, mais il ne faudrait pas qu'il fasse plus de 14 ou ce genre de choses. Ça arrive et ça me surprend toujours parce que c'est vraiment un critère que je ne regarde pas. Je ne regarde pas le titrage du vin parce qu'au final, c'est le talent du vigneron de faire en sorte que cet alcool soit, alors masqué, c'est peut-être pas le terme exact, mais qu'il soit discret, qu'il ne prenne pas la place du reste. Donc, moi, si j'ai un conseil à donner, parce que c'est souvent quelque chose qui m'est opposé quand on parle notamment du Rhône Sud, où les degrés d'alcool montent assez vite. Il ne faut pas se focaliser sur ce degré d'alcool. Il faut évidemment goûter le vin, ça c'est mieux, pour voir que finalement, on ne sent pas obligatoirement l'alcool dans un vin qui titre à 15 degrés.
Sachant que Rastaud est le plus septentrional des Rhônes Sud, en termes d'appellation.
Pas tout à fait.
Oh, quasiment.
Vin sobre est au-dessus.
Vin sobre et Rastaud, c'est les deux plus septentrionaux. Ouais.
Et Grignan les a démarre.
Oui, mais alors là, on n'est plus dans la...
On n'est plus dans la...
On est dans le sud du Nord.
Tu connais la complexité de la vallée du Rhône et ses appellations satellites. Et voilà, donc Grignan est effectivement une appellation satellite du Rhône.
Alors, on va goûter un autre vin. Alors, ce qui est bien, c'est que on est au téléphone, là, ça s'entend, mais tu as les mêmes vins que nous à déguster. Du coup, j'aimerais qu'on parle, pendant qu'on déguste, et puis on parlera évidemment du vin, mais qu'on parle aussi du travail de l'appellation. Parce que il y a un travail, Laurent le disait, il faut pas s'en cacher, il y a un travail de notoriété à faire, et c'est un peu ce qu'on fait aussi ici, la raison pour laquelle on a ce partenariat pour faire une émission et sur Rasto, nous c'est ce qu'on adore, hein, qu'on avait fait sur Grignan, qui est aussi une appellation, alors qui est encore moins connue je pense que Rasto. On avait parlé de vin sobre aussi à une époque, il y a, on va dire, dans cette région... l'ombre de Châteauneuf mondialement connu, et puis à côté Gigondas qui est quand même également très connu, reconnaissable de tous les amateurs de vin, et puis Rasto doit se faire un nom, et c'est en cours. Comment vous travaillez au niveau de l'appellation pour comment ça se passe concrètement quand on est dans une appellation comme ça? On travaille sur les vins, évidemment, c'est votre quotidien à la vigne, et puis comment se fonctionne cette la communauté des vignerons de Rasto?
Bah oui, c'est vrai. C'est important, je pense, de rester soudés et d'aller tous dans le même sens. Donc, on a un syndicat très dynamique. On réfléchit toujours à faire quelque chose pour nous démarquer, sortir du lot et promouvoir l'appellation.
En 10 ans déjà, beaucoup a été fait sur les 10 dernières années depuis l'atteinte du cru. Alors je crois, tu m'as dit que ton grand-père avait été l'artisan, avec d'autres évidemment, mais qu'il était à la tête du syndicat pour obtenir ce cru qui est finalement arrivé en 2010, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. Il a été à la présidence du syndicat pendant 25 ans pour justement travailler à la session au cru. Et grâce à l'aide de tous les vignerons qui ont joué le jeu et de ce travail acharné, l'appellation Rasto fait partie de l'accord des grands depuis 2010.
Et donc en 10 ans, parce qu'une fois qu'on a obtenu l'appellation, le cru, on pourrait se dire c'est un aboutissement, mais c'est en fait le début de quelque chose. Il ne s'agit pas seulement d'avoir le nom, il faut ensuite travailler sur sa notoriété.
C'est ça, c'est que le début en fait. Tout commence à partir de ce moment-là. Alors, on a mis au point pas mal d'actions. La principale, ça a quand même été l'étude approfondie de nos terroirs, grâce à Georges Truc, le géologue de la région et même de France, qui nous a cartographié exactement chaque cépage, délimité les trois grands axes de chaque terroir, les trois grands axes de nos terroirs. On a travaillé aussi sur une bouteille syndicale, parce que je pense que c'est important à l'échelle d'un cru d'avoir une bouteille qui différencie. Le problème maintenant, c'est que sur les linéaires, il y a énormément de bouteilles syndicales. Donc, comment se démarquer des autres? On est parti sur quelque chose de très épuré, de beaucoup plus moderne, avec des inscriptions Rasto et pas de blason, pour pas être dans la redondance avec Gigondas, Châteauneuf, etc. Ce qui est important aussi, ça a été le travail sur l'éducation. Rasto, finalement, c'est des rouges secs. Et souvent, quand on parle aux consommateurs, c'est le vin doux. Et pourtant, il y a 96% de rouges secs sur l'appellation Rasto et seulement 4% de vin doux. Pourtant, on a encore cette image collée de vin liquoreux, un peu lourd. Et pourtant, on voudrait s'en sortir, quoi. Parce qu'il y a des rouges sur la finesse, la puissance et la subtilité.
En termes de production, vous avez une idée du rapport entre ce qui est produit en coopérative et ce qui est produit en cave individuelle ?
Cave particulière. Vous me posez une colle.
Non, parce que souvent,
non, je ne sais pas,
plusieurs, je crois qu'il y a plusieurs caves coopératives à Rasto. Hein.
Oui, il y a 70
000 euros. Il y a la principale, ouais, c'est Hortas. Ouais. Sur Rasto, il n'y en a qu'une seule. Après, il y a d'autres caves des villages voisins qui produisent des Rasto aussi, mais nous avons la cave Hortas, c'est vraiment celle. Ouais.
D'après mes infos à valider, il y a 60 vignerons indépendants, 3 caves coopératives et 25 négociants.
Après, c'est parce qu'effectivement, je pense que l'enjeu pour une appellation comme Rasto, c'est d'avoir un front de caves indépendantes qui soit suffisamment soudé, solide pour défendre un cru, que parfois les coopératives n'ont pas le même... on va dire, la même énergie à défendre. Donc c'est la question que je me posais. C'est, est-ce que justement vous avez l'impression que tout le monde est à bord pour défendre les intérêts d'un cru comme Rasto ?
Tout le monde joue le jeu. D'ailleurs, le syndicat de Rasto est en coprésidence avec un vigneron indépendant, Jean-Pierre Bertrand du Grand Nicolet, et Gogo, qui est à la cave coopérative de Rasto. Voyons, on est tellement proches qu'on se surnomme, et c'est Frédéric Goliard, mais son surnom vient en premier.
Il y a aussi un événement à Rasto, il n'y a pas une nuit des vins autour du 14 août ?
Oui, il y a plusieurs événements. La nuit du vin, c'est vraiment la plus connue, qui se fait depuis plus de 30 ans. Bon, ça fait 2 ans qu'on ne peut plus la faire. Mais il y a aussi l'escapade des gourmets, ça c'est une randonnée touristique au sein des terroirs de Rasto avec des dégustations et à Cormes et des vins. Ça aussi depuis plus de 20 ans, et puis des petites soirées bar à vin, soirées à thème.
Oui, on peut parler aussi en termes de communication. Il y a un travail sur la communication numérique. Le site web de Rasto, par exemple, est très bien fait, très complet. On apprend plein de choses sur les vins. Il y a une vraie présentation des domaines. On voit bien que c'est un travail. Aujourd'hui, on dit 360, c'est-à-dire dans toutes les directions. Il faut travailler les vins, il faut travailler la communication, il faut travailler l'événementiel, il faut préparer les dossiers auprès de l'INAO pour faire évoluer le cahier des charges. C'est un travail intense, qui se fait évidemment en dehors de votre métier de vigneronne.
Oui, c'est ça. Il faut être sur tous les fronts en même temps. Mais c'est important... pour l'appellation et pour le cru.
Et ça paye. 10 ans plus tard, vous sentez que les regards ont évolué. On vient vous voir spécifiquement en connaissant les vins de Rasto.
Ah oui, c'est clair. Nous, par exemple, les clients qui poussent la porte du domaine, ils viennent pour nos Rasto plus que pour nos autres appellations. Donc, on essaye toujours de faire goûter un peu les autres, mais c'est le Rasto qui est important, quoi, qui prime sur les autres.
On va passer au deuxième vin, juste rapidement. On a goûté donc Argila ad Argilam. Quels sont les autres cuvées emblématiques du domaine sur Rasto ? Vous faites aussi des Grenache Syrah Mourvèdre, les fameux GSM classiques. Parce que là, on est sur un Grenache Syrah. Est-ce que vous jouez comme ça avec toutes les compositions et les assemblages qu'offre le terroir ?
Et non, malheureusement, nous, on n'a pas de Mourvèdre ou très peu sur Rasto. Parce qu'on est trop haut et il ne mûrit pas bien. Mmh. Donc, on avait fini par tous les arracher. Et puis, petit à petit, on commence à réfléchir à en replanter, puisqu'on s'aperçoit que ça va commencer à marcher avec le réchauffement climatique. Mais non, on est surtout sur des grenaches Syrah. La cuvée phare du domaine, c'est la cuvée La Ponce. C'est vraiment la première cuvée que mon papa a faite lorsqu'il a repris en 99, qu'il a fait ça avec ses premières bouteilles. Et si on doit en choisir qu'une, ce serait celle-là.
Alors, nous, précisément, j'apporte cette précision, on n'a pas choisi, on n'a pas demandé aux vignerons de nous envoyer les têtes de cuvée, parce que là aussi, on voulait rester fidèle à ce qu'on fait d'habitude. Alors, il nous arrive d'ouvrir des bouteilles à 30 ou 40 euros, mais globalement, on aime bien conseiller des vins qui sont abordables pour les gens qui nous écoutent. Et donc, on est plutôt sur des vins voilà, plus raisonnables en termes de prix. C'est quoi le prix au niveau au consommateur de l'argila d'Argilam?
L'argila, il est à 17 euros au caveau.
Voilà, c'est ça. On s'était dit entre 10 et 20 euros. Ça reste raisonnable pour boire des vins aussi, aussi fins, aussi élégants. Alors, dans notre sélection, on avait aussi coché une case et on avait choisi des vins donc, qu'on trouvait relativement différents dans leur profil. On va parler d'un vin de la maison Augier. Alors, je crois qu'il n'y a pas de rapport avec le Stéphane Augier du Rhône-Nord. C'est plutôt une maison...
Bah non, rien à voir, puisque ça a été fondé à Saint-Étienne en 1859, la maison Augier. Donc,
celui qu'on voit.
Oui, 1800, oui.
D'accord. Ah, Saint-Étienne, tout de suite, les yeux s'allument. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce vin et en quoi serait-il différent, du coup, d'un vin du domaine des Escaravailles?
Alors, Patrice. Une autre, on n'est pas très très loin de Châteauneuf-du-Pape. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de domaines qui sont à Châteauneuf-du-Pape et qui font des vins à Rasto, et donc qui apportent aussi, je dirais, cette expérience, cette expertise et ce savoir-faire de Châteauneuf dans le Rasto et dans les. Donc c'est le cas du domaine Augier qui au départ est un domaine qui a, je crois, 40 hectares à Châteauneuf-du-Pape. C'est la même chose aussi pour un autre vin qu'on aurait pu choisir, mais qui était dans la même mouvance, qui était le château de la Gardine, qui sont aussi historiquement des gens de Châteauneuf et qui vinifie à Rasto. Donc l'idée là, c'était de se dire, ben voilà, on a un vin. Rasto est un petit Châteauneuf quelque part, et on a pas mal de gens de Châteauneuf qui viennent ici parce qu'ils sont intéressés par les grenaches. On a des grands grenaches à Châteauneuf-du-Pape, hein, notamment on pourrait citer le plus connu, Rayas, qui est sur des sables à Châteauneuf-du-Pape. Mais voilà, il y a une influence aussi des gens de Rasto qui viennent vinifier ici, ce qui veut dire que ce terroir a de la valeur et que les grenaches peuvent aussi faire des vins subtils.
Madeleine, est-ce que tu es d'accord pour dire que ce vin a un profil un peu différent du argila d'argilam qu'on vient de déguster?
Oui, en lisant la fiche technique et en me renseignant un peu plus, je vois qu'on est, donc la cuvée s'appelle les Combes, donc on est plus dans les piémonts des collines, on a des marnes et un peu plus de calcaire. Et pour moi, sur ce vin, on est plus sur la finesse et un peu plus de légèreté et des tanins vraiment soyeux et plus facile à boire, entre guillemets. Une cuvée de plaisir. En plus, on est sur 2020.
Donc oui, c'est un vin un tout petit peu plus jeune.
Gourmand.
Et une année gourmande, effectivement. Laurent?
Oui, effectivement. Enfin, j'ai pas grand-chose de plus à dire, que si ce n'est qu'on a peut-être... On aurait peut-être dû inverser l'ordre de dégustation. Mais c'est facile à boire. C'est léger. Et voilà,
c'est gourmand, on est beaucoup plus fruité. Je pense qu'il y aura un peu moins de potentiel de garde sur ce vin-là que sur l'argila d'Agnon. Il est beaucoup plus immédiat. On sent qu'il y a un peu plus de tension quand même là. Je ne vais pas dire que c'est configuré, mais on sent que les fruits rouges sont un peu plus mûrs, en tout cas en termes de goût. C'est un peu plus immédiat. Mais en tout cas, c'est une cuvée voilà, très, très facile, très agréable. Je pense qu'il y a un peu moins de potentiel de garde que sur l'argila d'Agnon. Alors, je ne sais plus quel est l'assemblage exactement. Peut-être qu'il y a un peu moins de Syrah aussi, qui la Syrah est un
peu
plus...
Oui, il n'y a que 10% de Syrah.
Voilà, donc on est à 90% de Grenache, donc on est sur un vin un peu plus immédiat. Encore une fois, la Syrah apporte la structure tannique qui permet de tenir un peu plus dans le temps.
Et c'est ce qui est intéressant aussi. Dans...
Et puis là, je crois qu'on est sur une cuvée qui est à 10 euros. Hein, donc on le trouve à 10 euros, donc c'est vraiment quelque chose d'hyper hyper abordable.
Très accessible, et y compris dans le vin, très, voilà, très, très simple. D'abord, je pense que tu as raison, Laurent, on aurait pu commencer par celui-là, parce que ton vin... ton vin, Madeleine, est peut-être plus ample et plus large dans la palette d'arômes, moins sur le fruit, un peu plus avec de la garde. Mais bon, voilà, ce qui est intéressant, c'est Voilà, c'est de montrer à quel point, ben voilà, dans ce terroir, qui est pas un immense territoire non plus, hein, on arrive à faire des vins qui
on est en élevage. Foudre. Là, on n'a pas le côté minéral patiné arrondi de l'élevage qui peut être fait en argile et en amphore. Mais en même temps, voilà, c'est relativement bien fondu. D'abord parce que c'est des foudres et que c'est pas des petits tonneaux, donc la prise de bois n'a pas été trop forte. Mais voilà, donc
on peut pas dire qu'il soit marqué par le
bois.
Non,
mais c'est du foudre. Mais c'est voilà, ce qu'on disait, qu'est-ce qu'il y avait de différent aussi. Bah, l'élevage est aussi l'assemblage est différent, l'élevage est différent. Mais voilà, moi, je trouve ça très agréable et on l'avait bien aimé dans la dégustation. Dans la même veine, encore une fois, que Château-Lagardine.
C'est un terroir qui permet quand même une variété d'expression assez large, même si voilà, vous jouez avec quelques cépages, le grenache est toujours dominant, mais du coup, c'est un espace d'expression et d'expérimentation pour toi, d'échange avec peut-être les deux générations qui te précèdent, faire telle cuvée. Est-ce que c'est des choses que tu fais évoluer toi aussi au domaine?
Bah oui, je pense que chaque année, après chaque les dégustations au cours des vinifications, on voit qu'une parcelle sort un peu du lot. Alors on se dit, bah pourquoi pas essayer ça. Encore cette année sur 21, vu que le climat était un peu plus frais, un peu plus de pluie au cours de l'été, on a eu des plus jolies sorties de Tira. Donc on s'est dit, pourquoi pas isoler une Tira et essayer un élevage un peu différent. Donc c'est vrai que chaque année, rien n'est figé. On se remet un peu en question et c'est ça qui est intéressant. Ne pas rester sur les acquis.
Ouais, je confirme que c'est intéressant aussi du côté des dégustateurs de voir voilà, la variété, de voir des vins qui s'adaptent, qui changent d'un millésime à l'autre.
Même si on aurait pu un peu plus manger en dégustant les 16 vins, parce que c'est vrai que...
Ouais. On a mangé quand même. Ouais, on mange pas ce soir pour éviter les bruits de bouche.
C'est des vins, je pense, qui s'apprécient comme ça, mais c'est aussi des vins qui s'apprécient en mangeant. D'accord, mes vins en mangeant. Ouais.
Alors qu'est-ce qu'on a en accorderait avec celui-là?
Oh bah je pense à peu près la même chose. Moi je suis pas assez fin là-dessus, mais bon, effectivement, une viande en sauce, ça marche bien. Je pense que même sur un barbecue ça peut bien passer. Voilà.
On va parler maintenant de voilà, cette appellation historique et puis des vins que nous on apprécie particulièrement dans la terre à boire, les vins doux, les vins liquoreux, les vins sucrés. En l'occurrence, c'est du vin doux naturel. Alors, on va faire quand même le petit rappel technique. Qu'est-ce qu'un vin doux naturel? Comment c'est fabriqué? Peut-être, Madeleine, tu peux nous le dire, d'ailleurs. C'est toi la mieux placée.
Allez. alors, la différence vraiment qui est importante avec les vins doux naturels Rasto, on est vraiment les voisins de Baume de Venise. Donc, en expliquant déjà Baume de Venise, on comprend un petit peu. La différence, c'est que Baume, c'est du muscat. Nous, on est à base de grenache. Comme vous l'avez dit précédemment, c'est grenache noir, grenache gris ou grenache blanc. Pour avoir un vin doux naturel, en fait, la méthode d'élaboration, c'est un mutage. Lorsqu'on trouve le point d'équilibre entre l'alcool et l'acidité, qui est en général autour de 90 grammes par litre, on ajoute 10% d'alcool vinique. Donc, c'est un alcool aux alentours de 96 degrés. Pardon.
Neutre, oui.
Oui, voilà, un alcool neutre complètement. Et cet ajout d'alcool stoppe la fermentation immédiatement et on a notre vin muté, le vin doux grenat, le vin doux tout court. Pardon.
Alors, tu dis grenat, mais alors, on
pour rappel, pour rappel, enfin, mutage, c'est pas lié à la mutation, c'est qu'on rend le vin muet, puisque le vin qui fermente pétille, grésille, etc. Et le fait de rajouter l'alcool, on arrête ce son. Donc, mutage vient du terme muet. Et après, juste pour rapport à Rasto, on peut avoir des vins doux naturels rouges, rosés ou blanc.
Alors il y a même une kyrielle de profils. Alors je ne sais pas si on appelle ça des appellations. Il y a je les ai sous les yeux. Alors je vais les dire. Il y a le grenat, tuilé, rosé, blanc, ambré. Il y a également le hordage et le rancio. Est-ce que j'en ai oublié?
Non, je crois que c'est bien.
Donc c'est lié à quoi toutes ces variations à la maturité des raisins, à la façon d'élever?
C'est lié déjà aux couleurs du cépage utilisé, si c'est le grenache gris, blanc ou noir, aux élevages. Par exemple, un ambré peut être de grenache noir, avec un long élevage en barrique de 30 mois en moyenne, mais il peut aussi être d'un vin doux blanc, avec un élevage oxydatif également. Donc c'est vraiment très complexe, et ça offre une palette aromatique hors norme. Sur les blancs, on sera sur quelque chose de vraiment sur le fruit, des notes de poire, du fruit frais, de la gourmandise. Alors que sur un grenat, on sera sur de la cerise juteuse, des épices, quelque chose de beaucoup plus profond. Et comme vous disiez plus tôt, ça va très bien avec du chocolat, ça va aussi extrêmement bien avec des fromages à pâte persillée.
Oui.
Et puis pour les ambrés, tout ce qui est ambré, tuilé, ordage et rancio, là on sera sur une palette de notes oxydatives, des notes de noix, fruits secs, curry, un peu frangipane, amandes, enfin, très gourmand également.
Alors celui qu'on boit précisément, c'est un tuilé du domaine Grand Nicolet. Et c'est un vin de 2004, hein, donc qui commence à avoir de l'âge justement. Et c'est un plaisir justement de ces vins doux, c'est qu'ils vieillissent extrêmement bien. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce vin doux?
C'est moi qui dois parler.
Non,
pas forcément.
Silence.
Non, effectivement, bah, je peux prendre. Je peux
Vas-y,
prendre
Laurent.
La parole. Oui. Donc comme il est tuilé. On a effectivement une couleur de vin rouge évolué, quoi. On a quelque chose qui est devenu un peu cuivre et par l'apport.
Faire gaffe avec le cuivre dans,
mais bon, dans le vin. Ouais, non, c'est sûr, faut éviter, mais. Il y a des gens qui se battent contre le cuivre, je sais. Une couleur un peu, oui, je sais pas comment vous le décririez, mais pour moi c'est une couleur un peu cuivre. Et on a ces notes oxydatives qui, bon, me plaisent moi toujours beaucoup. Ce côté fruit sec qui est très agréable.
Donc c'est un 100% grenache. Ouais. C'est des vignes qui ont 80 ans. Pour le domaine Grand-Nicolet, oui, et c'est orienté sud-est. Et sauf erreur de ma part, on fait pas des vins tout naturels sur n'importe quel terroir. Il faut plutôt être sur des grenaches qui sont sur du sable argile, quoi. Hein, on les fait pas trop sur les autres terroirs de Rasto. Ouais. Est-ce que alors Madeleine confirme peut-être?
Et pour c'est ça. Il faut surtout avoir des très vieilles vignes, des vieux grenaches.
Donc là, elles sont à 80.
Voilà, c'est ça. Et c'est la particularité, du coup, de l'appellation Rasto. Par exemple, les années où vous ne voulez pas, où vous ne souhaitez pas produire de vin doux, vous utilisez ces vignes pour produire vos vins rouges secs. Donc, c'est pour ça qu'on a au moins 15% du vignoble planté en vieilles vignes de Grenache.
Et je crois qu'il y a quand même quelques contraintes aussi pour rentrer dans l'appellation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire plus de 30 hectolitres par hectare pour le VDN. Et il faut aussi un taux, je crois, de je crois que c'est 252 grammes de 252 grammes
qui est élevé, ouais.
Voilà, de sucre pour le vin.
Vendange, oui.
Mais la surface de l'appellation en vin doux naturel est beaucoup plus large que celle en vin sec, non?
Non, c'est l'inverse, elle est beaucoup plus petite.
Je pensais qu'il y avait certains villages qui étaient quand même autorisés à faire du Rasto en VDN, non?
Non, pas du tout. C'est vraiment que sur Rasto et dans l'aire de délimitation de l'appellation, ouais.
Mais sur la maturité,
on fait 1000 hectolitres de VDN versus 30 000 de vin tranquille.
Voilà,
ultra confidentiel, mais j'avais l'impression effectivement qu'on avait le droit de le faire sur un périmètre plus large. Autant pour moi.
Sur la maturité, ça veut quand même dire que les parcelles qui sont destinées à faire du vin doux, donc déjà c'est les vieilles vignes, mais vous savez d'avance que ça va être. Enfin, vous les laissez maturer davantage pour avoir des raisins plus mûrs pour pouvoir être le support de ce vin.
C'est un pari, c'est l'année où on se dit bon ben on va faire du vin doux cette année-là, on garde la parcelle parce qu'on sait que c'est celle qu'on utilise pour faire un vin doux blanc, ambré, peu importe. Et si la qualité sanitaire de vendange est là au dernier jour des vendanges, nous en général on finit toujours par le vin doux, on vendange à ce moment-là et on attaque le processus. Mmh.
C'est presque des vendanges tardives.
Presque, mais quand même pas parce que ça se situe à mi-octobre. Maximum.
Ça veut dire que vous ne faites pas du vin doux tous les ans?
Non. Non, même si on aimerait beaucoup, mais le problème est aussi du côté de la consommation. On vend de moins en moins de vin doux, donc on n'a pas besoin autant qu'avant.
C'est un appel.
Juste pour parler du
retrouver le goût des vins doux.
Ouais, donc le domaine Grand Nicolet, juste en deux mots, donc c'est un domaine familial qui a été créé en 1875, donc c'est aussi un domaine assez ancien, et qui a à peu près 27,5 hectares à Rasto. Voilà, donc avec des sols argiles, rouges, jaunes, des marnes, et quelques marnes bleues aussi.
Donc très emblématique du ouais, terroir finalement.
Madeleine le connaît beaucoup mieux que nous.
On fait des vins rouges, des vins tranquilles. On fait aussi des vins doux naturels. Oui, c'était voisin, Grand Nicolet, alors si j'ai bien compris. Vous êtes tous voisins, de toute façon.
Il se situe plus au sud de, l'appellation, mais on est voisins. On s'est encore vu cet après-midi. Donc.
On glissera, on postera en même temps que l'épisode une carte justement de ces terroirs, ce travail que vous avez fait avec l'appellation. Pour conclure, quels sont les grands chantiers de l'appellation pour les années à venir? Tu nous as parlé du fait de peut-être réviser le cahier des charges, faire baisser l'obligation du taux faire baisser le taux de grenache obligé dans les vins pour vous offrir une palette plus large. Est-ce qu'il y a d'autres ambitions? Il y a la notoriété, le no-tourisme peut-être à développer parce que la région est tellement magnifique. J'imagine que ça existe déjà. Il y a déjà une offre de no-tourisme à Rasto. Est-ce que c'est aussi un axe sur lequel les vignerons souhaitent travailler?
Oui, bien sûr. On a déjà parlé des différents événements qui sont en place depuis pas mal d'années. Mais on travaille aussi sur des balades en Diane. Ça s'appelle les Rasto Secrets.
En Diane, c'est une voiture, ça.
Voilà, c'est ça, au cœur du vignoble, donc ça secoue un peu, mais c'est des balades beaucoup plus intimistes au cœur du vignoble. On a aussi, pour les 10 ans du cru, créé une exposition photo, une exposition permanente pour se balader au sein du village et découvrir 10 photos faites par 10 photographes différents pour justement fêter ces 10 ans du cru, donc l'année dernière. Et... ensuite, ce qui est intéressant, c'est de venir se balader sur les sentiers viticoles et d'admirer les panoramas qu'offre l'appellation, parce que vous serez vraiment en face des Dentelles et pouvoir admirer la vue sur le Ventoux et la vallée.
C'est une région évidemment magnifique. Il y a un endroit où on peut déguster tous les vins de Rasto quand on est sur place?
Oui. Ça s'appelle Rasto Bienvenue. D'ailleurs, il y a des expositions tous les mois à Rasto Bienvenue. Et vous pouvez déguster un panel de 2 ou 3 cuvées par domaine. Et après, faire votre choix si vous voulez aller déguster à telle ou telle cave.
On peut conseiller ça aux gens qui se rendraient dans la région, d'aller d'abord là. Et de goûter un petit peu à tout, on peut leur dire qu'ils seront bien accueillis, et ensuite d'aller peut-être pêcher dans les différents domaines les vins qui leur ont le plus plu.
Oui, et la particularité cette année, c'est qu'en vous rendant à Rasto Bienvenue, vous trouverez la cuvée des 10 ans du cru, parce que ça, c'est la nouveauté qu'on a voulu mettre en place pour l'anniversaire de l'appellation, où tous les vignerons qui souhaitaient participer... choisissent une cuvée de leur domaine, celle qui représente le mieux le domaine. Et on a fait un concours avec une étiquette globale, c'est la même étiquette pour chaque domaine, et c'est la cuvée des 10 ans. Et tous les bénéfices sont reversés à une association, l'Étoile de Martin. Donc c'était vraiment un projet qui nous tenait à cœur.
Étoile de Martin, une magnifique association qui lutte contre les cancers de l'enfant.
Voilà. Donc une étiquette commune pour une cuvée à plein de facettes différentes.
Merci beaucoup Madeleine Ferrand pour ces précisions, ces explications sur ce terroir de Rasto. Encore bravo pour ces vins. Écoute, on serait ravis de venir te rendre visite en passant, et puis on invite les gens qui nous écoutent à aller faire un tour du côté de cette belle appellation des Côtes-du-Rhône méridionales pour ces vins rouges, pour ces vins doux naturels. Alors, il y a une question, j'ai eu l'occasion d'échanger il n'y a pas longtemps avec des vignerons de Rasto, justement, il y a une question qui leur est souvent posée. Pourquoi pas de vin blanc, ou plutôt, à quand des vins blancs dans l'appellation Rasto?
Un blanc tranquille, tu veux dire.
Oui, un blanc. Oui, pas, oui, il y a déjà des vins doux blancs, mais un blanc, parce qu'on en fait à côté, à Carane, il y a des sublimes vins blancs. C'est quelque chose dont vous discutez entre vous?
Oui, c'est en pourparler, alors... on va essayer de monter un dossier et de travailler là-dessus. Alors, on se donne rendez-vous dans une dizaine d'années.
Oui, parce que c'est des démarches qui prennent énormément de temps. Hein.
Mais est-ce que l'implantation des grenaches blancs, enfin tout ce qui sert à faire des vins doux naturels blancs, peut produire des secs? Enfin, comment ça se présente?
Bien sûr, l'idée, ce serait justement d'utiliser ces parcelles-là pour faire le cru les années où on ne fait pas le vin doux.
Oui. Et c'est un, mais c'est une superficie qui est importante.
Non, c'est une petite superficie. Oui. D'autant plus que ça fait 10 ans que l'appellation est en cru rouge. Donc c'est plus intéressant, entre guillemets, d'avoir des rouges sur sa terre d'appellation plutôt que des blancs qui seraient déclassés en Côte-du-Rhône.
Côte-du-Rhône,
donc là, tout le travail est à faire.
Oui, puis j'imagine qu'il y aurait, des blancs et... c'est des vieilles vignes, etc., il y aurait un certain coût de production, les produire en non-rasto. Enfin, ouais, effectivement, c'est un long cheminement pour arriver.
On a compris qu'il y avait du pain sur la planche pour les vignerons et pour continuer à faire grandir cette belle appellation de Rasto. Merci beaucoup Madeleine Ferrand pour ce petit voyage, voilà, au pied des dentelles de Montmirail, au pied du Mont Ventoux. On est avec toi là, même si on est dans un studio à Paris, on s'imagine voilà, le soleil sur les vignes un petit peu en altitude. Et bon courage pour le millésime 21. Quand est-ce que ça va être mis en bouteille, ça?
Un peu plus tard. Pour les blancs, on va commencer à la fin janvier. Mais les rouges sont en élevage pour quelques mois. C'est bon, là, on est tranquille.
Merci. Profite un peu de cette tranquillité. J'imagine que ça va être bientôt le retour de la taille dans les vignes, si ça n'a pas déjà commencé.
Oui, ça y est, ça attaque.
Bon courage pour ce travail-là. Et voilà, bravo pour ton travail. Et merci d'avoir été notre invité, Madeleine.
Merci à tous les trois.
Merci.
À bientôt.
Vous êtes les bienvenus à Rasto.
Avec plaisir. C'est noté. Au revoir, Madeleine Ferrand.
Au revoir.
Trois jolis vins, une belle rencontre. On est ravis d'avoir fait ce petit voyage à Rasto. Je vais citer en conclusion quand même les vins, les vignerons, les appellations, les cuvées qui ont joué le jeu de cette grande dégustation à laquelle on s'est livré. Donc d'abord les vins de ce soir, on a goûté le Argila d'Argilam du domaine des Escaravailles. On a goûté également la cuvée Les Combes de la maison Augier. On a goûté du domaine Grand Nicolet un vin doux naturel tuilé de 2004. Et puis, on avait également goûté, je vais tous les citer, le château du Trignon, le château Lagardine, que Patrice a également évoqué, qui nous avait bien plu également. En Rasto 2018 du domaine Martin, on a goûté et apprécié également les vins d'Élodie Balm, qui est aussi une des vigneronnes assez connues de l'appellation, qui fait de très très jolis vins. L'héritage 2018 du domaine Grange Blanche était aussi dans notre line-up, la cuvée Septentrion du domaine Wilfried. La Mondona du domaine Coteau des Travers, qu'on avait également particulièrement aimé et qui faisait partie de notre deuxième sélection. Le domaine Armand, le domaine Michael Boutin, le domaine Notre-Dame des Palières, le domaine du Galuval et le domaine Beaumistral. La Girardière, les Girasols, la Luminaille et Grand Nicolet, je l'ai déjà cité, et Hortas Ronea, qui est donc la cave coopérative de Rasto, qui fait aussi des vins très intéressants. Voilà, on se quitte sur ce panorama des vins de Rasto. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à goûter ces vins et à en parler. N'hésitez pas à aller faire un tour de ce côté-là ou à demander du Rasto chez votre caviste favori dans un bar à vin. T'as des Rasto à la carte, monsieur Laurent Delceau, en ce moment ?
En ce moment, pas du tout, non. Désolé.
C'est vrai ?
Je l'avoue. Non, j'ai donné...
Mais ça change tout le temps en même temps chez toi. C'est vrai qu'il n'y a pas une carte établie.
Ça évolue régulièrement. Mais oui, je suis open aux propositions de Rasto.
T'avais pas de Trapalisse, c'est pas en Rasto?
J'ai beaucoup de plaisir à goûter à faire découvrir les vins d'Hélène Durand en Trapalisse, ouais, le domaine Trapalisse. Et dans ma cave perso, j'ai un petit peu de Marcel Richaud, sa cuvée Rasto. Qui
font aussi tous les deux des Rasto.
Marcel fait surtout du Kéran, mais ouais, un petit peu de Rasto.
Kéran qui est juste à l'ouest, sud-ouest de Rasto.
Et en fait, je dois dire qu'à l'époque où j'étais à l'université du vin, justement, en allant au domaine Richaud, j'avais vraiment eu un coup de cœur sur son Rasto plutôt que sur ses Kéran. Enfin, pas plutôt que sur ses Kéran. J'avais vraiment eu un coup de cœur sur ses Rasto.
Voilà, merci à tous de nous écouter. On se retrouve dans une paire de semaines pour une nouvelle émission. On est mi-décembre, on va en profiter pour fêter des bonnes fêtes de fin d'année à tout le monde, et on va se retrouver en 2022 pour pas mal de nouveautés encore, probablement d'autres émissions comme celle-là où on va faire découvrir des appellations. Il y a un projet aussi d'émission en public. On a trouvé le lieu, il reste à organiser tout ça. Bon, ça va être à Paris, hein, pour nos éditeurs qui ne sont pas à Paris.
C'est l'Accor Arena,
c'est ça ? Désolé, c'est l'Accor Arena, tout à fait. Le palais omnisport de Bercy, comme on disait quand on était jeune. Pas tout à fait, mais
je croyais.
Ça ne te surprendra pas, c'est un joli bar à vin. Et ça n'est pas le White Therapy, mais
ce sera... Je suis bien déçu.
On y est.
Ça commence à être trop petit, Laurent.
Ça commence à être trop petit, en effet. Voilà, merci à tous les deux. Patrice Defay, Laurent Delceau, merci. On se retrouve en 2022 pour de nouvelles aventures vinicoles, œnophiles. Dans la terre à boire.
Juste un ajout.
Oui, Laurent.
On parlait de la cuvée La Terre à Boire.
Oui.
On disait qu'elle était effectivement. On pouvait la commander sur le site.
Tout à fait.
Et on peut aussi la déguster.
Au Wine Therapy.
Et l'acheter au Wine Therapy.
Au verre, à la bouteille, sur place,
exactement,
à emporter. Voilà.
Exactement.
C'est ça. C'est comme ça.
C'était la minute pub.
C'était la minute réclame en fin d'émission. Allez, merci. Passer de
une
belles...
partie des bénéfices étant reversée à l'association La Terre à
Boire. Une partie, la totalité des bénéfices. et sert à financer modestement ce podcast. Merci à tous. On se retrouve en 2022. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année, tous les deux, et puis tous ceux et toutes celles qui nous écoutent.
Ouais, moi je salue les clients qui passent au Wine Therapy, qui viennent du Canada, qui viennent de Suisse, qui viennent de Belgique. C'est particulièrement touchant de voir à quel point ce qu'on raconte parle à des gens. Ça fait
ah, tu veux dire des auditeurs qui viennent
oui,
de Suisse, de
sûr,
Belgique et
sûr.
Du Canada.
Oui, oui, évidemment. Je parle des auditeurs qui deviennent des clients du Wine Therapy, oui, bien sûr.
Un tiers des auditeurs de cette émission vivent hors de France.
Ouais.
Le premier territoire.
Et ils viennent jusqu'à Paris.
C'est les États-Unis.
Pour voir un coup chez moi.
États-Unis, Canada, Belgique, Suisse, effectivement. Allez, on arrête avec l'autopromo, là,
l'autosatisfaction. Buvez bien, buvez bon pendant les vacances.
Voilà, faites-vous plaisir avec des jolis vins, des beaux vins et des vins de vigneronnes et de vignerons. Allez, on se quitte. Bye bye.
Bye.
Ciao.